Alléluia. Dieu soit béni pour toutes ces paroles d'encouragement que le Seigneur nous apporte ce matin. Il est loin d'être insensible à ce que nous vivons. Il peut même nous comprendre parfaitement puisque lui a pris une chair semblable à la nôtre. Il est sensible et puis il est surtout aussi la solution, la réponse à nos difficultés. Et je bénis son nom avec vous ce matin pour toutes ces paroles d'encouragement. Merci à nos frères et sœurs de nous apporter ces chants, ces cantiques à la gloire du Seigneur. Prions pour eux encore que Dieu les inspire. C'est une joie encore de partager la parole de Dieu ensemble. Je crois que c'est Jonathan la semaine dernière. Je ne sais pas où il est, Jonathan. Tu es là. Qui disait, c'est vrai qu'on est bien en bas aussi parce que voilà, on reçoit, on écoute. Ben, le Seigneur, il demande parfois que voilà, on puisse se donner. Et c'est vrai qu'il y a à la fois du stress, il y a à la fois de l'appréhension, mais qu'importe. Ce qui va être important, je crois que ça a été rappelé plusieurs fois ce matin, c'est qu'on puisse parler avec notre cœur de ce que le Seigneur nous a donné. Et je crois aussi de ce qu'il a préparé pour chacun d'entre nous ce matin. Je voudrais lire un premier texte avec vous dans l'évangile de Luc au chapitre 24. Évangile de Luc au chapitre 24. Nous allons lire juste à partir du verset 25 dans cette histoire, vous savez, des disciples sur le chemin d'Emmaüs. Vous pouvez relire chez vous tout le contexte de ce passage. Mais nous ne lisons que quelques versets lorsque Jésus va être à la rencontre de ses disciples. C'est après la mort de Christ, il y a ses disciples qui ont été découragés, qui sont repartis. On voit que leurs espoirs avaient été brisés et Jésus, alors qu'ils étaient empêchés de le reconnaître, leur dit ceci au verset 25. « Alors Jésus leur dit, ô homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire ?» Verset 27. « Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Amen. Dans une autre version, il est dit, alors commençant par les livres de Moïse et parcourant tous ceux des prophètes, Jésus leur expliqua ce qui se rapportait à lui dans les Écritures. Il y a aussi ce verset 32 que nous pourrions lire, et ils se dirent, c'est après avoir reconnu le Seigneur Jésus dans une circonstance particulière, ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ?» Amen. Et quand il expliquait les Écritures, on vient de le lire, Jésus parlait de ce qui le concernait à lui dans les Écritures. Et je voudrais que ce matin, au contact de la parole de Dieu, nous puissions être réchauffés dans notre cœur. Parce que nous y découvrons, parce que nous réalisons la réalité d'une seule et même personne, Jésus-Christ, notre Sauveur bien-aimé. Regardez juste, puisqu'on a la Bible ouverte dans ce chapitre, regardez au verset 44, c'est un petit peu plus tard, lorsque Jésus va se présenter aux apôtres, il est écrit ceci, puis il leur dit, « C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi. Tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. » Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures, qu'ils fassent de même pour nous, pour que nous puissions comprendre ce qui concerne Jésus-Christ dans les Écritures. Alors c'est un thème que j'ai déjà commencé d'aborder il y a quelques semaines. Le titre de mon message est repris de ces versets que nous venons de lire. « Toute l'Écriture révèle Jésus-Christ. » Toute l'Écriture révèle Jésus-Christ. Alors rapidement, je vous redonne quelques pensées que j'ai déjà pu partager, puis nous allons tranquillement continuer ce thème. Toute l'Écriture révèle Jésus-Christ. Dans une certaine circonstance, le Seigneur Jésus, on lui a reproché d'avoir guéri un homme le jour du sabbat. C'était un homme qui était malade depuis 38 ans. Et le drame, il a été guéri le jour du sabbat. Vous vous rendez compte? Et Jésus va leur dire ceci, vous sondez les Écritures, donc il ne faisait pas que survoler les Écritures. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi, a dit Jésus. Jésus leur dit aussi que finalement leur accusateur ce serait Moïse, parce que Moïse, il a cru et il a parlé de moi dans ses livres, a dit Jésus dans Jean au chapitre 5 et au verset 45. Le point central de toutes les Écritures, c'est Jésus-Christ. Tout culmine à la venue, à la mort et à la résurrection de Jésus-Christ. Toute l'Écriture révèle Jésus-Christ. Et le défi pour nous, ce que nous souhaitons est notre prière, notre engagement avec le Seigneur. Nous qui l'avons rencontré et qui sommes nés de nouveau et qui marchons avec lui, c'est que notre vie soit transformée à son image. Selon ce verset des Écritures que je vous cite, nous tous qui le visage découvert contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous le voyons au travers de la parole, pas aussi parfaitement que nous le verrons quand nous serons face à face avec lui. Nous le voyons un peu d'une manière imparfaite comme dans un miroir, mais nous y voyons la gloire du Seigneur et alors nous sommes transformés en son image de gloire en gloire, dans 2 Corinthiens chapitre 3 verset 18. Mais la question qu'on pourrait se poser, c'est en lisant l'Écriture, est-ce que moi-même, je découvre la personne de Christ tout au long des Écritures? Vous savez, des fois, nous, on cloisonne un petit peu. Il y a déjà cette séparation qui ne nous aide pas. Entre d'un côté l'Ancien Testament, on met une grosse fracture, pof, et le Nouveau Testament. En oubliant parfois qu'il y a une parfaite continuité. Toute l'Écriture est un ensemble cohérent pour que nous y découvrions, dès les premiers chapitres de la Bible, la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Et la dernière fois, j'ai parlé de ce premier point que j'ai voulu partager sur ce message-là. Ce premier point, et c'est un thème archi inépuisable, c'est que toute la Bible converge vers le plan de salut. Quand vous prenez le début de la parole de Dieu, c'est vrai, comme je l'ai dit la dernière fois, un peu les difficultés que nous pouvons avoir, c'est que nous ne prenons pas assez de hauteur parfois par rapport aux Écritures. Je disais, par exemple, vous savez, on a un peu cette... Des fois, on a pris ce pli, vous savez, de lire un chapitre. Si vous avez, par exemple, un livre entier, vous lisez un chapitre, voilà, chaque jour, tatati, tatata. Et finalement, s'il fait 30 chapitres, voilà, il faudra un mois pour arriver du début à la fin. Et parfois, ça nous empêche de voir l'ensemble du livre. Et c'était un encouragement que je vous laissais et que je vous laisse encore ce matin, de parfois prendre un peu plus de temps et de lire le livre dans son entier. On a besoin un petit peu de prendre la hauteur par rapport aux Écritures. Il y a des choses très très importantes dans tous les livres de la parole de Dieu. Mais il y a surtout, du début jusqu'à la fin, un fil conducteur, c'est l'histoire du salut de l'humanité qui trouve son apogée dans l'œuvre de Jésus-Christ. Et nous ne devons pas perdre cette pensée. Toute la Bible, quand on la prend dans son ensemble, c'est un seul message. Vous la lisez d'un trait, vous fermez le livre et vous pouvez dire que vous avez découvert que Dieu aime tous les hommes qu'il a créés à son image et malgré la rébellion, malgré la désobéissance des hommes, Dieu n'a de cesse tout au long des Écritures d'essayer de rétablir la communion avec eux. On crée parfois, c'est vrai, on dit les fameuses réunions dites d'évangélisation, et j'ai rien contre ça, bien au contraire. Mais ne cloisonnons pas. Il n'y a pas l'Ancien Testament d'un côté pour parler que des rois, des prophètes, etc. Et que les évangiles pour parler de Jésus-Christ. Mais toute l'Écriture converge comme un fil conducteur pour que nous parlions, que ce soit au culte dimanche matin, que ce soit bien sûr cet après-midi, dans toutes nos rencontres. Je dirais même que nos vies entières soient centrées sur la personne de Jésus-Christ. Nous devons concevoir les Écritures comme un ensemble cohérent. Je sais, parfois, des textes sont difficiles, mais que nous puissions la concevoir comme quelque chose de cohérent, une vision globale que le Seigneur nous a laissée, pour nous permettre de constater que le centre de gravité et le cœur de l'Écriture se trouvent dans la personne et dans l'œuvre de Jésus-Christ. Et la dernière fois, j'ai pris un petit peu le temps de prendre quelques passages. Vous prenez déjà le troisième chapitre de la Genèse, lorsque vous voyez la chute, au moment où le péché rentre dans l'humanité, je dirais presque instantanément, Dieu propose un plan de salut. Et déjà dans cette parole de condamnation qui a été dite sur le serpent, en parlant de la postérité de la femme, Dieu a dit « Mais celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon ». Déjà dans ces paroles, troisième chapitre des Écritures, il est question de la croix du calvaire, où effectivement Jésus a été blessé. Mais il a écrasé la tête du serpent qui est cette représentation du diable. Il faudrait prendre beaucoup de temps pour parler de Noé, l'arche de Noé. Quelle image extraordinaire du salut merveilleux offert en Jésus-Christ. Quand vous arrivez à Abraham, là aussi, l'annonce d'une postérité, une descendance innombreuse. Il est question aussi déjà de Christ. Il est question de chacun d'entre nous qui sommes la postérité en Jésus-Christ. Que dire lorsque vous arrivez dans le livre de l'Exode ? Non seulement un peuple qui a été élu, mais un peuple qui a été racheté. Racheté par quoi ? Ce sang de l'agneau. Quelle image extraordinaire ! Quelle préfiguration de ce qui se passera plus tard pendant les fêtes de Pâques. Oui, toute la Bible converge vers le plan de salut. Je parle du début de la Genèse, au moment où tout a commencé, mais même bien avant, Dieu avait tout prévu. Et je voudrais relire ce verset avec vous dans Éphésiens chapitre 1er. Éphésiens chapitre 1er. Non seulement depuis la création du monde, Dieu avait pensé au plan de salut, mais même avant, Dieu avait pensé à chacun d'entre nous. Éphésiens chapitre 1er verset 3. Excusez-moi, je vous le lis dans la version Semeur, mais on n'est pas très loin. « Loué soit Dieu, le Père de notre Seigneur, Jésus le Christ, car il nous a comblés de bénédictions de l'Esprit dans le monde céleste, qui toutes sont en Christ, en lui. Bien avant de poser les fondations du monde, il nous avait choisis pour que nous soyons saints et sans reproche devant lui, puisqu'il nous a aimés. » Il nous a destinés d'avance à être ses enfants qu'il voulait adopter par Jésus-Christ. Voilà ce que, dans sa bonté, il a voulu pour nous afin que nous célébrions la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son Fils bien-aimé. Amen. Comme je disais tout à l'heure, en prenant de la hauteur sur les Écritures, nous voyons que Dieu poursuit inlassablement le même but au travers d'un homme, Abraham, au travers d'un peuple, Israël. Malgré toutes les désobéissances, vous avez tout ce temps où les prophètes ont essayé d'interpeller le peuple d'Israël. Inlassablement, Dieu poursuit le même but, et je dirais le fait encore aujourd'hui, le salut de l'humanité. Non, le plan de salut prévu par Dieu en Jésus-Christ ne concerne pas seulement les évangiles, le Nouveau Testament, les épîtres, toute l'Écriture, il y a comme un point culminant de l'œuvre de Christ lorsque Jésus vient. Que dis-je ? Dieu vient lui-même sur la terre des hommes. Selon cette prophétie d'Ésaïe, c'est pourquoi le Seigneur vous donnera lui-même un signe. Voici, la jeune fille sera enceinte et elle enfantera un fils et elle lui donnera pour nom Emmanuel, qui signifie Dieu avec nous. Depuis le jardin d'Éden, Dieu n'a cessé de parler aux hommes, mais en Jésus-Christ, Dieu va beaucoup plus loin. Il vient lui-même se révéler à nous. Il prend une chair semblable à la nôtre. Et le deuxième point que je voudrais partager sur ce thème, toute l'Écriture révèle Jésus-Christ, et que nous allons commencer ce matin, c'est que Jésus est la parole de Dieu. Jésus est la parole de Dieu. On ouvre le livre aux Hébreux, s'il vous plaît. Hébreux, chapitre 1er. Hébreux, chapitre 1er. Il est important de concevoir toutes les Écritures comme une continuité du plan de salut révélé pleinement en Jésus-Christ. Et ces quelques versets que nous allons lire vont nous permettre de réaliser que Dieu a parlé autrefois de diverses manières et maintenant, il parle au travers de son Fils, verset 1er, Hébreux 1er, verset 1er. Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Il l'a établi héritier de toutes choses par lui. Il a aussi créé l'univers. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Il soutient toutes choses par sa parole puissante. Il a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de Dieu, de la majesté divine, dans les lieux très hauts. Amen. Dans ces derniers temps, il nous a parlé par son Fils. C'est par son Fils qu'il nous a parlé. On va retenir ce texte. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur Jésus, parole de Dieu manifestée dans l'humanité. Mais dans ce texte, nous retiendrons trois aspects principaux de Jésus, parole de Dieu. C'est au verset 2, c'est par son Fils qu'il nous a parlé. Nous parlerons de cette dimension de parole prophétique. Il y a aussi, toujours ce verset 2, par lui aussi, il a créé l'univers. Nous parlerons de la parole créatrice. Et au verset 3, l'empreinte de sa personne, dans la traduction Semeur, il est dit l'expression parfaite de son être. Et nous parlerons de la parole révélatrice. Alors commençons par Jésus, parole de Dieu, une parole créatrice. C'est aussi par lui qu'il a créé l'univers. Il dit, et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Nous, on peut créer des choses qu'à partir de ce qui existe. Dieu part de rien et la chose arrive. De rien et elle existe. Souvenez-vous de ce texte où un jour le centenier s'approche de Jésus pour implorer la faveur divine pour la guérison de son serviteur malade. Qu'est-ce que dit ce centenier à Jésus? Il lui dit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot. Et mon serviteur sera guéri, car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Je dis à l'un, va, et il va. Je dis à l'autre, viens, et il vient. Et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. » Et vous savez comment Jésus a loué hautement la foi de cet homme, puisque Jésus ira même jusqu'à dire, « Même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » Cet homme vient bien sûr recevoir par là même la guérison de son serviteur. Cet homme avait compris que Jésus avait tout sous son contrôle. Il a compris la puissance et l'autorité qui émanaient de la parole de Jésus. Ce que Jésus dirait s'accomplirait avec certitude. Et tout cela depuis la création. Il avait compris que Jésus avait tout sous ses ordres. Comme lui, il avait des serviteurs à ses ordres, il disait à l'un va, et il savait automatiquement qu'il irait. Cet homme avait compris qui était Jésus, et comme nous l'avons lu, qu'il possédait cette parole puissante en lui. Une parole créatrice. Jésus a tout sous ses ordres. Cela ne vous rappelle-t-il pas un passage des Écritures que je vous cite maintenant, écoutez bien. Ce Fils, il est l'image de Dieu que nul ne voit. Il est le premier-né de toute la création, car c'est en lui qu'ont été créées toutes choses. C'est en lui qu'ont été créées toutes choses. Dans les cieux comme sur la terre, les visibles, les invisibles, les trônes, les seigneuries, les autorités, les puissances, oui, par lui et pour lui, tout a été créé. Il est lui-même bien avant toute chose et tout subsiste en lui. Amen. Tout a été créé par lui. Tout a été créé pour lui. Je vous ai cité Colossiens chapitre 1er et le verset 15. D'autres textes, je vous le cite, dans l'Apocalypse, il est écrit ceci, « Quand les êtres vivants rendent gloire, honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles. Les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône. Ils adorent celui qui vit au siècle des siècles. Ils jettent leur couronne devant le trône en disant, « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance. Car tu as créé toutes choses. Et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Tu as créé toutes choses dans Apocalypse 4 et le verset 9. Jésus est la parole de Dieu, une parole créatrice. Et c'est dans ces termes d'ailleurs que l'apôtre Jean introduit son évangile. On va le lire ensemble, Jean chapitre 1er. On va surtout retenir les trois premiers versets, mais j'avoue que les 14 premiers versets sont tellement extraordinaires qu'on va lire les 14 premiers versets. Qu'est-ce qu'il est bon, mes frères et sœurs, de lire la parole de Dieu ensemble. On ferait que la lire, je ne la commente pas, on serait béni. Dites pas plus béni, sinon je vais être vexé. Mais c'est merveilleux. Alléluia. Évangile de Jean, chapitre 1er, verset 1er. « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un homme, envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole, elle a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce, de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Amen. La parole de Dieu a été faite chair, le Verbe incarné, Jésus, puisqu'il est bien question de Jésus dans ces trois premiers versets, Jésus est la parole de Dieu. nous considérons Jésus comme le messager de Dieu. Et c'est vrai. Mais il est plus que cela. Il est le message. Nous le considérons comme le porte-parole de Dieu, celui qui nous communique la parole. Mais il est plus que cela. Il est la parole, parole vivante, parole, les intentions de Dieu, tout ce qu'il a communiqué au travers de tous ces siècles que nous voyons dans l'Ancienne Alliance, se sont personnifiés en Jésus-Christ, notre Sauveur bien-aimé. Au commencement était celui qui est la parole de Dieu, il était avec Dieu et il était lui-même Dieu. Ce n'est pas étonnant que du temps de Jésus, plusieurs aient trouvé les paroles de Jésus quasiment hors normes de tout ce qu'ils avaient pu entendre. Il est dit, par exemple, les gardes du temple dirent « Personne n'a jamais parlé comme cet homme ». Et Pierre, qui est intervenu plusieurs fois, avait reconnu cette puissance dans la parole de Dieu. Ce n'était pas comme ils avaient reçu, comme les prophètes l'avaient manifesté. C'était quelque chose de plus merveilleux. Et Pierre dira ceci, « Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Alléluia, dans Jean chapitre 6 et verset 68. Et c'était pourtant difficile pour eux de considérer Jésus comme Dieu. Ça a été un peu le défi, le conflit chaque fois avec les souverains sacrificateurs, avec ces hommes religieux, ce conflit de le considérer tel qu'il était vraiment. Jésus, le Fils de Dieu. Et entre parenthèses, c'est aussi un conflit important parfois, aujourd'hui, pour affirmer que Jésus n'était pas seulement le prophète, mais véritablement ce qu'il attestait, il était le Fils de Dieu. Et un jour, Jésus va être amené à poser cette question, mais que disent les gens au sujet du Fils de l'homme ? Qui disent que je suis ? Qu'est-ce qu'ils disent de moi ? Et ils répondirent, pour les uns, tu es Jean-Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, Jérémie ou un autre prophète. Et vous ? Et vous, leur demanda-t-il, qui dites-vous que je suis ? Et Simon-Pierre fait cette déclaration extraordinaire qui sera d'ailleurs le socle de l'édification de l'Église sur cette confession. Pierre dit, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus lui dit, tu es heureux Simon, fils de Jonas, ce n'est pas par toi-même que tu as trouvé cela, c'est mon Père Céleste qui te l'a révélé. On trouve ces textes dans Matthieu chapitre 16 et au verset 13, et vous verrez, la confession de Pierre va servir vraiment de socle pour bâtir, pour que le Seigneur Jésus puisse bâtir cette église, cette pierre vivante. Je crois que chaque homme et chaque femme, lorsqu'il découvre en Jésus-Christ qu'il est véritablement le Fils de Dieu, je crois que lui aussi, elle aussi, devient cette pierre vivante qui édifie le corps de Christ. Quand on a lu tout à l'heure, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. On fait de suite le rapprochement avec les premiers versets des Écritures où il est écrit ceci, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Et plusieurs fois il est écrit, donc dans ce chapitre premier de la Genèse, plusieurs fois il est écrit, Dieu dit et la chose est créée. Avant que Dieu parle, il n'y a rien. Et quand Dieu a parlé, la chose existe. C'est cela la parole créatrice manifestée en Jésus-Christ. Il est écrit dans le livre aux Hébreux, je vous le cite, « C'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. » Hébreux 11 et le verset 3. C'est le psalmiste qui dit « Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Il amoncelle en un tas les eaux de la mer, il met dans des réservoirs les abîmes. Que toute la terre craigne l'Éternel, que tous les habitants du monde tremblent devant lui, car il dit « Et la chose arrive. » Il ordonne et elle existe. Psaume 33, verset 6 à 9. Parole créatrice, Jésus est la parole de Dieu, une parole créatrice, et je dirais même plus ce matin, une parole recréatrice. Parce que je crois que le prologue de l'évangile de Jean est aussi cette préfiguration de tout ce que Jésus va annoncer. Il y a ce chapitre 3 avec Nicodème, etc., de la nouvelle naissance, comme une nouvelle création. Et je crois que cette puissance de la parole de Jésus, parole de Dieu créatrice, est par là même aussi une puissance de recréation. Celui qui croit, dit la Bible, il a la vie éternelle. À un certain moment donné, je n'ai pas la vie éternelle. Elle n'existe pas en moi. Je suis comme un mort spirituel. Mais lorsque je saisis par la foi cette parole, je reçois la vie. Parole créatrice, parole recréatrice. Je pense que lorsque Jésus est devant le tombeau de Lazare, c'est l'image quand même de nos vies qui sont comme morts spirituellement. Et la parole de Dieu qui se manifeste pour Lazare, Lazare sort. Il n'y avait pas la vie en Lazare. C'était vraiment attesté. Ça faisait pas une heure, deux heures, trois heures. Ça faisait longtemps. Il n'y avait pas de vie. Il n'y avait pas un soupçon de vie en lui. Et pourtant, sur la parole de Jésus. Et je crois que c'est ce qui se manifeste dans le domaine spirituel. Lorsque je confesse que le Seigneur Jésus est vivant, que je veux qu'il soit mon sauveur, lorsque je donne ma vie à lui, c'est comme si je pouvais entendre mon nom sort et la vie qui vient en moi. Jésus, parole de Dieu, parole créatrice. Nous rappelons aussi que tout cela a été écrit pour converger vers ce plan de salut. Tout cet évangile de Jean, c'est Jean qui terminera son évangile en disant ceci, ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus-Christ, que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Amen. Jean chapitre 20 et verset 31. Je vous ai dit tout à l'heure que dans l'épître aux Hébreux, dans ce texte que nous avons lu, il est parlé de la parole créatrice. Pour lui, il a créé l'univers. Et il y a aussi une parole révélatrice. Et ça, c'est important qu'on puisse s'y attarder encore un peu ce matin, parce que, alors, certaines traductions disent ceci, « Ce Fils est le rayonnement de la gloire de Dieu et l'expression parfaite de son être. » C'est cela la parole révélatrice. Un jour, on va le lire ensemble. Allez, Jean chapitre 14. Jean chapitre 14. Un jour, Jésus va répondre à cette question de Thomas. On va lire juste à partir du verset 6, Jean 14, verset 6. Jésus fait cette confession. Jésus lui dit, « Je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. » Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père ?» Amen. Jésus, Jésus-Christ, c'est en définitive Dieu lui-même qui nous parle. Jésus, c'est Dieu qui nous parle. Et si nous voulons voir Dieu, et cela est important de le rappeler dans des contextes, parfois vous savez un peu de courant, un peu syncrétisme dans la chrétienté, ou plutôt un mot plus connu, l'œcuménisme, vous savez, où on essaye d'englober que on a tous le même Dieu finalement. Eh bien non, pas avec tous. Parce que si nous lisons, et si nous voulons vivre les versets que nous venons de lire, nous pouvons voir très clairement que nous ne pouvons voir Dieu que par un seul chemin, par un seul accès. Et si nous, encore ce matin, nous pouvons le voir, si lui-même, il peut nous voir, ce n'est uniquement au travers de Jésus-Christ. Il est le chemin. Nul ne vient au Père que par moi. L'apôtre Paul aux Colossiens dit que le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. On 1 Colossiens 1, verset 15. Et il dit plus loin, « Dieu a voulu faire habiter toute plénitude en lui » au verset 19. Et je vous cite encore un verset de Colossiens. « C'est en lui, c'est dans son corps qu'habite toute la plénitude de ce qui est en Dieu. C'est en Christ qu'habite toute la plénitude de ce qui est en Dieu. » Vous savez que l'Écriture dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et la parole que nous manifestons est révélatrice des plus profonds de notre cœur, des intentions qu'il y a. Elles peuvent être bonnes comme mauvaises. Et la manifestation de la parole de Dieu en Jésus-Christ, c'est en définitive les intentions de Dieu à notre égard qui sont comme personnifiées. Quand je vois Christ, je vois Dieu lui-même. Lorsqu'il parle, lorsqu'il agit, lorsqu'il se comporte de certaines manières, c'est Dieu lui-même qui se manifeste. Vous êtes toujours dans Jean, regardez au chapitre 12. Jean 12, verset 44. Jean 12, verset 44. « Or Jésus s'était écrié, celui qui croit en moi, croit non pas en moi, mais en celui qui m'a envoyé, et celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. » Alléluia. Jean 5, verset 19. Allez, on le regarde ensemble. Jean 5, verset 19. Jésus Excusez-moi, je ne le dis pas toujours, mais je lis souvent la version Semeur. Jésus répondit à ses reproches en leur disant, « Vraiment, je vous l'assure, le Fils ne peut rien faire de sa propre initiative. Il agit seulement d'après ce qu'il voit faire au Père. Tout ce que fait le Père, le Fils le fait également. » Amen. Jésus est la parole de Dieu qui nous révèle le Père. C'est ça la parole révélatrice. Il est l'empreinte, le reflet exact de la personne, de la réalité de Dieu, de ses intentions. Le cœur profond de Dieu est manifesté, personnifié en Jésus-Christ. Et si nous voulons connaître Dieu, si nous voulons nous approcher des intentions de Dieu, c'est uniquement au travers de Jésus-Christ que nous le pourrons. C'est pour cela qu'il est important de comprendre le sens et surtout ce point culminant des Écritures, cette convergence de tout ce qui est manifesté dans les Écritures, dans la personne et dans l'œuvre de Jésus-Christ. Parce que c'est au travers de lui que tout a été pleinement manifesté. C'est au travers de Jésus que Dieu nous montre clairement les intentions qu'il a pour chacun d'entre nous. D'autres textes parlent de cette unité parfaite entre le Père et le Fils, mais nous allons pas nous attarder dessus ce matin, juste regarder dans l'évangile de Luc au chapitre 10. Luc chapitre 10. Je voudrais terminer après par ce troisième aspect de Jésus, parole de Dieu, parole créatrice, comme nous l'avons vu, parole révélatrice, mais nous allons voir aussi une parole qui est une parole prophétique. Luc 10, verset 21, allez, je vais le lire plus dans la version que vous connaissez. Luc 10, verset 21, « En ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit et il dit, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père et personne ne connaît qui est le Fils si ce n'est le Père, ni qui est le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. » Et se tournant vers les disciples, il leur dit en particulier, « Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez, car je vous dis que beaucoup de prophètes et de rois ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. » Amen. Beaucoup de prophètes et de rois auraient voulu voir ce que vous voyez, mais ne l'ont pas vu. Et cela nous amène à cette troisième dimension de cette parole de Jésus. C'est aussi une parole prophétique. Dans ce premier chapitre du livre des Hébreux, nous avons lu tout à l'heure que c'était par son fils que désormais Dieu nous parlait. Moïse avait salué d'avance la venue d'un prophète. Moïse avait dit ceci, « L'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. » Et il termine en disant, « Vous l'écouterez. » Et on terminera tout à l'heure par cette pensée, « Vous l'écouterez. » Le peuple, quand on regarde toute l'histoire d'Israël, le peuple attendait la venue de ce prophète qui avait été annoncé plusieurs fois et qui surpasserait tout ce que le peuple avait connu dans le domaine de la prophétie. Et plusieurs fois, on va poser la question à Jésus. Il y a cette question, par exemple, qui est posée à Jean-Baptiste. Ils lui demandèrent à Jean-Baptiste, « Mais quoi donc, es-tu Élie ?» Et il dit, « Je ne le suis point. Es-tu le prophète ?» Et il répondit, « Non, il n'était pas Jean-Baptiste le prophète, mais on l'attendait comme ce Messie promis. » Et plusieurs ont reconnu que ce prophète annoncé déjà par Moïse était là. Et cette parole de Philippe est très intéressante parce qu'il est écrit ceci. « Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, « Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph dans Jean chapitre 1er au verset 45. « Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi. » Que dire de tout ce que nous disions tout à l'heure sur la convergence des Écritures et l'annonce de la venue de ce prophète. On va terminer ensemble en lisant dans Jean au chapitre 12. Jean chapitre 12 et verset 49. C'est quoi un prophète? Si nous devions définir qu'est-ce que c'est qu'un prophète? Il y a beaucoup de choses à dire parce que ça concerne aussi la réalité de la vie de l'Église aujourd'hui. Un prophète, en le disant très simplement, c'est quelqu'un qui parle fidèlement de la part de Dieu, qui retranscrit fidèlement, si vous regardez le témoignage de Samuel, ce prophète en Israël est extraordinaire, comment il reproduisait avec fidélité. Tout ce qu'il disait s'accomplissait parfaitement. Pourquoi ? Parce qu'il reproduisait fidèlement la parole de Dieu. C'est ça, la parole prophétique. Jean chapitre 12, verset 49. « Je n'ai point parlé de moi-même, a dit Jésus, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Et je sais que son commandement est la vie éternelle. C'est pourquoi les choses que je le dis comme le Père me les a dites. » Amen. Elle est là, la parole prophétique, qui reproduit fidèlement ce que Dieu, les intentions de Dieu pour les hommes. On va lire un autre verset dans Actes chapitre 3, verset 22. J'ai encore deux passages et on arrête. Actes 3, verset 22. Acte 3, verset 22, c'est Pierre qui témoigne ainsi de Jésus. Moïse a dit, vous voyez ce qu'on disait tout à l'heure sur la convergence du plan du Seigneur au travers de Jésus-Christ. Moïse a dit, le Seigneur votre Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi, vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Et quiconque n'écoutera pas ce prophète sera exterminé du milieu du peuple, tous les prophètes qui ont successivement parlé depuis Samuel ont aussi annoncé ces jours-là. Amen. Point culminant de tout ce qui a été annoncé, prédit, conçu, comme on l'a dit tout à l'heure, bien avant la fondation du monde, le plan de salut, la cohérence des Écritures, la convergence vers Jésus-Christ. Tous les prophètes ont aussi annoncé ces jours-là. J'ai dit que j'allais terminer, alors il faut que je termine. Vous savez, des fois, ce n'est pas facile de se lancer, et après, c'est parti. Hein. Mais on regarde l'heure, quand même. Je voudrais dire, avec beaucoup de solennité, cette parole, c'est que reconnaître Jésus comme la parole de Dieu qui est venue habiter parmi nous, c'est aussi comprendre cette nécessité de bien l'écouter. Jésus n'était pas qu'un porte-parole, qu'un messager, il était vraiment le message, la parole de Dieu qui a habité au milieu de nous. Et je voudrais lire un dernier texte. C'est encore un rapprochement de Christ avec Moïse, c'est dans ce passage de la Transfiguration, parce qu'ensuite il termine en disant « Écoutez-le ». Et l'importance pour nous, bien sûr qu'il y a beaucoup de choses dans la parole de Dieu qui sont importantes, dans la vie de l'Église, il y a énormément de choses qui pourraient être partagées. Mais on passerait à côté de l'essentiel. Si nous ne vivons pas comme les Écritures, comme un point central de notre vie, tout converge, tout passe par Jésus-Christ. Il n'y a pas un culte où on dirait, on ne parle pas de la croix de Jésus-Christ, etc. Tout n'a de sens qu'au travers de lui. Dans les Écritures, dans nos vies personnelles, et aussi dans nos vies communautaires. Dans Matthieu chapitre 17, au verset 1er, c'est le dernier texte que nous lisons ensemble ce matin. Matthieu chapitre 17, verset 1er, je vous rappelle ce qui s'est passé pour les disciples d'Emmaüs quand ils ont entendu comment Jésus a révélé sa personne dans toutes les Écritures, leur cœur s'est réchauffé. Vous savez, des fois, on lit la parole de Dieu, pardon pour cette petite parenthèse, mais vous savez, on cherche la volonté de Dieu. Ça arrive des fois. Ça vous est jamais arrivé? Ah, il y a un tournant dans ma vie, il y a des choix importants, etc. Et souvent, je suis là, ah, parle-moi, Seigneur. Ça vous est jamais arrivé? Ça ne vous parle pas trop. Et c'est bien de le faire. Mais c'est différent parfois d'ouvrir la parole de Dieu et de chercher ce qu'elle nous révèle de la personne de Christ. Parfois, on est un peu trop centré sur nous-mêmes, sur nos besoins, et c'est normal. Mais si les disciples d'Emmaüs ont eu leur cœur qui était réchauffé, ce n'est pas parce que Jésus, au travers des Écritures, a voulu mettre un point dominant sur la doctrine plutôt qu'une autre à ce moment-là, mais il a voulu leur montrer, dans le Moïse, dans tous ces livres de la parole de Dieu, il a voulu leur montrer ce qui le concernait à lui. Et pour que notre vie soit transformée, je vous assure qu'à titre personnel, ça a changé ma lecture de la parole de Dieu, c'est de chercher dans toutes les Écritures. Alors, petite parenthèse aussi, ce n'est pas pour ça qu'il faut dire à tous les détails, tout et n'importe quoi, la Bible est cohérente, il faut être raisonnable dans notre façon de l'interpréter aussi, mais lisez que le livre de l'Épître aux Hébreux, et vous verrez comment toutes les parties du Lévitique, du Tabernacle, tout ça, etc., cette préfiguration extraordinaire de la personne de Jésus, lire les Évangiles, toute l'Écriture, pour qu'elle nous révèle la personne de Jésus-Christ, je vous assure, nous transformera en son image. On lit ce dernier passage, Matthieu chapitre 17, verset 1er. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici, Moïse et Élie leur apparurent s'entretenant avec lui. Pierre prenant la parole dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit, et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. » Amen. Écoutez-le. Écoutez-le. Toute l'Écriture révèle Jésus-Christ. Que nous puissions être centrés sur la personne de Christ. Pourquoi ? Parce que sa parole est une parole de création, une parole créatrice. C'est par elle que le monde entier a été créé. C'est une parole révélatrice. C'est par Jésus-Christ que je peux connaître qui est le Père. Et je termine par cette parole vraiment solennellement, et je voudrais le dire de tout mon cœur. Quand nous comprenons que Jésus est lui-même la parole de Dieu, nous comprenons alors très bien que lorsque nous voulons remettre en premier dans nos vies l'obéissance à la parole de Dieu, c'est en définitive remettre Christ au centre de nos vies, personnelles et communautaire. Amen.